Prions ensemble, voulez-vous? Notre Dieu, notre Père, devant ta parole ce matin, accorde-nous la grâce de la comprendre avec le cœur. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Amen. Il y a pas mal d'années en arrière, dans un journal paroissial, paraissait l'annonce suivante. Je vous la lis. Notre Dieu est aussi grand que l'espace. Venez l'adorer au sommet du mont Loun. Les gondoles partiront à 10h30 et le service commencera une demi-heure plus tard. Le service sera non dénominationnel pour les chrétiens génériques. Un rabais est accordé sur le prix des gondoles, 3,50 pour les adultes, 16 ans et plus gratuit. Demandez le ticket spécial Église. Alors je me suis demandé, c'est quoi en fait des chrétiens génériques? Service non dénominationnel pour des chrétiens génériques. C'est quoi des chrétiens génériques? Je connais les produits génériques, j'en trouve dans les magasins. Ces produits qui ont un emballage sans couleur, noir et blanc. On a aussi des produits qui s'appellent sans nom. C'est même devenu un nom, sans nom. Produits génériques, c'est des produits qui sont moins chers, pas chers, peu engageants dans leur emballage. On a essayé de gagner sur le prix de l'emballage. Ça ressemble aux autres produits, mais on essaie de les vendre moins chers. C'est des produits qui sont présentés comme étant supposément les mêmes que les autres, mais au rabais. C'est quoi alors un chrétien générique? Est-ce que c'est un chrétien du même genre? Un chrétien générique, est-ce que c'est un chrétien passe-partout, un chrétien sans couleur, un chrétien standard, un chrétien au rabais, un chrétien qui s'est mis dans le moule de tout le monde et qui passe inaperçu, chrétien un petit peu moins cher que les autres? C'est quoi un chrétien générique? Je ne savais pas que ça existait, des chrétiens génériques. En réfléchissant, j'ai pensé que effectivement, le christianisme n'a pas toujours été une source de bonheur ou de joie pour les chrétiens. Et je peux imaginer facilement qu'un bon nombre de chrétiens de notre temps aient souffert de leur vie religieuse et n'aient plus envie de souffrir de leur vie religieuse. Et je peux imaginer aussi qu'un certain nombre de chrétiens ont souhaité se retrancher dans un christianisme neutre, un christianisme caméléon qui va prendre la couleur de l'environnement pour ne pas avoir à souffrir de nouveau, pour ne pas avoir à s'engager de nouveau dans quelque chose qui risque à terme peut-être de s'avérer être une source de souffrance. Je peux imaginer qu'un bon nombre de chrétiens aujourd'hui ont voulu se retrancher dans une sorte de christianisme au rabais, qui n'engage personne, qui ne menace personne et qui n'est une menace pas pour eux non plus. Un christianisme générique. Mais alors, ce christianisme générique, à quoi ressemble-t-il ? On l'entend parfois. Des gens qui disent « Oh, vous savez, en fait, on a le même Dieu après tout. » Une manière de dire « Écoutez, il y a des différences, je sais, mais n'en parlons surtout pas, voulez-vous. » On va essayer de trouver un point commun. On ne va parler que des choses que l'on a peut-être en commun. De peur qu'en parlant des différences, on ait des conflits, on ait des difficultés, qu'on ait honte peut-être. Qu'on ait du mal maintenant dans cette relation avec laquelle on est entretenu avec quelqu'un. Mais surtout ne parlons pas des différences, soyons tolérants. Et dans la bouche de beaucoup, être tolérant, c'est devenu « ne parlons pas de ce qui fâche ». Un christianisme générique qui cherche à s'adapter à toutes les formes possibles de christianisme de manière à ne gêner personne. On lui a donné un nom, et sans vouloir offenser qui que ce soit, ce nom ressemble beaucoup à ce que je disais générique. C'est œcuménique. On va chercher le plus petit dénominateur commun. On va mettre de côté les différences et chercher ce qui nous unit. Et c'est une démarche louable. La difficulté, c'est que finalement, ce qui nous unit est réduit à fort peu de choses. Et les églises qui se sont rassemblées dans le Conseil œcuménique ont souvent en commun très peu de choses, au point où, finalement, ce qu'elles ont en commun, ce sont deux mots. Et deux mots seulement. Jésus, Sauveur. Mais n'allons pas plus loin que ça, parce que si l'on te pose la question « quel Jésus » ou « quel Sauveur », là, les difficultés commencent parce que on n'est plus sur le terrain des points communs. Un christianisme générique. Malheureusement, ce christianisme générique ressemble beaucoup au christianisme qui est décrit dans les Écritures comme le christianisme des derniers temps. Un christianisme des espaces gris, un christianisme de la tiédeur, où l'on est à l'abri du froid et à l'abri du chaud. Et je me souviens tout d'un coup de ce passage de l'Apocalypse où Jésus lui-même dit ce qu'il pense de la tiédeur. À ceux qui sont tièdes, il dit « je vous vomirai de ma bouche ». Et puis je pense à ce texte de l'épître de Paul à Timothée, deuxième épître de Paul à Timothée, et je vous invite à prendre ce texte avec moi, vous le connaissez bien, il est au chapitre 3. Deuxième épître de Paul à Timothée, chapitre 3. L'apôtre Paul commence ce chapitre en disant de quelle époque il parle. Et il dit dans la deuxième épître qu'il envoie à Timothée au chapitre 3, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » L'apôtre Paul parle ici des derniers jours. Et puis il va faire une description détaillée et désastreuse des derniers jours. Et le verset 5 dit ceci. Il parle des hommes de ce temps-là, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Christianisme générique. L'apparence de la piété, ah, ce ne sont pas des renégats, ce ne sont pas des païens, ce ne sont pas des athées, ce sont des gens qui croient, qui ont l'apparence, le dehors, mais pas le dedans. Jésus n'était pas un juif générique. Jésus n'était pas un juif passe-partout. Jésus n'était pas un juif qui se noyait dans la foule et qui passait inaperçu parce qu'il était bien intégré dans le milieu au point de ne gêner personne. Jésus n'était pas un juif générique. Lorsque Jésus parlait, il y avait deux réactions. Soit on l'admirait, on le recevait, soit on voulait le lapider. Ce sont les deux réactions que l'on voit dans les évangiles par rapport au message de Jésus. Jésus n'était pas un juif générique. Et les apôtres, dans le Nouveau Testament, n'étaient pas non plus des serviteurs génériques de leur Seigneur générique. Lorsqu'ils apportaient le témoignage qu'ils avaient à donner, on voyait la différence. Cette différence était visible, elle était dérangeante pour les gens qu'ils côtoyaient. Ce n'étaient pas des chrétiens génériques, ces apôtres, ils étaient prêts à aller en prison pour ce qu'ils croyaient. Et ils ont montré dans leur existence qu'ils étaient prêts à aller à la mort pour ce qu'ils croyaient et pour leur témoignage. Regardez dans le livre des Actes avec moi au chapitre 4, comment ils s'expriment à ce sujet-là. Dans le livre des Actes des apôtres, au chapitre 4, nous retrouvons ces apôtres après l'ascension de Jésus, et ils ont été interpellés parce qu'ils faisaient du bien. Et dans l'interrogatoire qui a suivi, Pierre et Jean sont amenés à dire ceci. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 19. Pierre et Jean leur répondirent, « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » C'est impossible. Ce sont des témoins, ces apôtres. Ce ne sont pas des chrétiens génériques. Ce ne sont pas des chrétiens sans couleur. Ce ne sont pas des chrétiens passe-partout. Ce ne sont pas des chrétiens au plus petit dénominateur commun. Ce sont des chrétiens, au contraire, hauts en couleur, avec un témoignage clair, puissant dans leur temps. Ce sont des chrétiens qui sont finalement engagés, qui ne se fondent pas dans la masse de l'époque. C'est d'ailleurs ce qu'on reprochait à Jésus. On aurait voulu qu'il fonctionne avec les dirigeants de son temps, qu'il rentre dans les rangs comme tout le monde et qu'il suive, qu'il soit comme les autres, qu'il joue le jeu comme les autres. Et Jésus n'a pas fait ça. Il n'était pas le juif générique qu'on attendait de lui, et ses disciples n'étaient pas les chrétiens génériques qu'on en attendait d'eux. La foi du chrétien, la foi du vrai chrétien, n'est pas nécessairement une foi identique à celle de son voisin. La foi, ce n'est pas quelque chose qui se photocopie. Regardez par exemple dans la première épître de Pierre, au chapitre 3, l'invitation qui nous est faite. Elle nous montre cette invitation que notre foi n'est pas nécessairement calquée sur le milieu ambiant. Première épître de Pierre, chapitre 3, nous lirons au verset 15. Première épître de Pierre, chapitre 3, verset 15, dit ceci. « Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. » Si notre entourage demande raison de l'espérance qui est en nous, c'est parce que notre témoignage va être différent du milieu dans lequel on est. Il va peut-être déranger, il va donc falloir expliquer pourquoi nous sommes différents, pourquoi nous croyons autrement que la masse et la majorité de ceux qui nous entourent. D'où vient cette différence? Est-elle fondée sur quelque chose de valable, sur les Écritures par exemple? Et Pierre invite les croyants à considérer leur situation pour être capables de justifier de leur différence, justifier de leur foi non générique dans le temps où ils vivent. L'apôtre Paul nous fait la même invitation dans l'Épître aux Romains au chapitre 12. Épître aux Romains, chapitre 12, l'apôtre Paul interpelle les croyants et les invite aussi à un christianisme non générique. Romains, chapitre 12, à partir du verset 2. Épître aux Romains, chapitre 12, verset 2, il est écrit ceci. « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Ne vous conformez pas au siècle présent. L'apôtre Paul, de la part du Seigneur, invite les chrétiens à s'inscrire dans la différence, à ne pas se réfugier dans un christianisme commun. Je ne le retrouve pas dans la parole de Dieu, ce christianisme-là. Je ne retrouve pas un christianisme générique qui arrive à être concilié avec ce que Jésus disait lorsqu'il invitait les chrétiens à être le sel de la terre, par exemple. Ce christianisme générique dont on parle aujourd'hui ne se réconcilie pas non plus avec l'invitation de Jésus à être la bonne odeur du Christ. Ça ne se réconcilie pas non plus avec cet avertissement que le Christ nous donne en nous disant « Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups ». Ce n'est pas un christianisme générique. Alors je me pose aujourd'hui la question, est-ce que le christianisme générique que notre société nous pousse à avoir est un christianisme biblique? Je ne le ressens pas comme ça. Je peux le comprendre parce que je sais que beaucoup de gens aujourd'hui n'ont pas trouvé dans le christianisme cette source de paix, de joie, de force dont certains parlent. Alors ils se réfugient dans quelque chose qui ne va pas les faire souffrir de nouveau. Mais ce n'est pas une démarche biblique. Il y a un autre christianisme qui n'est pas non plus biblique, je crois, mais qui existait aussi déjà du temps de Jésus. Ce n'est pas un christianisme générique, c'est un christianisme génétique. Ce christianisme génétique n'est pas non plus biblique. C'est le christianisme de ceux qui sont nés dedans, qui sont chrétiens parce qu'ils sont nés dans un pays où on est chrétien, qui sont nés dans une famille chrétienne parce que c'est une famille qui depuis toujours a été chrétienne. Ils sont nés là, ils sont comme ça. Et il n'y a pas de raison de changer puisque c'est ainsi. Alors, je me pose la question. Si, par malheur, il était arrivé que je sois né dans un garage, est-ce que je serais garagiste automatiquement? Si, par malheur, j'étais né dans un avion, est-ce que ça aurait fait de moi un pilote? Si je nais dans une église, est-ce que ça fait de moi un chrétien? Pas davantage. Le fait de naître dans une église ne fait pas de moi un chrétien. Le chrétien, le christianisme, c'est un choix, c'est une relation avec Dieu. Ce n'est pas simplement un héritage. Jean-Baptiste, d'ailleurs, avait été confronté à cette situation-là déjà de son temps. Regardez dans l'évangile de Matthieu au chapitre 3. Évangile de Matthieu, chapitre 3. Jean-Baptiste est confronté à cette même situation. Une foi génétique. Évangile selon Matthieu, chapitre 3. Nous lirons le verset 9. Il est écrit, « Ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. » Bon, ce n'est pas exactement un compliment quand Jean-Baptiste est en train de leur dire, « Vous voyez ces cailloux-là ? Eh bien, figurez-vous que ces cailloux ont le cœur moins dur que vous qui vous prétendez être fils d'Abraham. » Ce n'est pas un compliment, ça. Ne prétendez pas être fils d'Abraham et être nécessairement dans le peuple de Dieu. Jésus a rencontré les gens de ce même calibre un petit peu plus tard dans son ministère. On le retrouve dans l'évangile de Jean, chapitre 8. Évangile selon Jean, chapitre 8. Évangile de Jean, chapitre 8. Nous lirons dès le verset 30, si vous voulez bien. Évangile selon Jean, chapitre 8, verset 30. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Ils lui répondirent, « Nous sommes la postérité d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres ?» Un peu plus bas, au verset 39 par exemple, ils lui répondirent, « Notre père, c'est Abraham. » Jésus leur dit, « Si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. » Christianisme génétique. Nous sommes des fils d'Abraham. On est né dans le bon train, on arrivera à la bonne destination. Qu'est-ce que Jésus est en train de leur demander de se libérer? Mais de quoi donc? Nous, on est sauvés. Qu'est-ce que tu nous demandes encore de faire? De toute façon, on est des fils d'Abraham. Ça suffit, c'est bon. Nous avons reçu l'héritage. Qu'est-ce qu'il faudrait encore? Nous sommes des fils d'Abraham. Nous sommes nés dans la bonne famille spirituelle. Nous sommes nés dans la bonne église. Et même si nous avons eu la grâce de naître dans l'église qui prêche la vérité biblique, nous ne sommes pas nécessairement un chrétien pour autant. Tant que cette vérité ne nous a pas affranchis et amenés, comme disait Jésus, à une transformation, à une conversion en profondeur. Nous sommes peut-être nés dans l'Église qui annonce la vérité, mais nous ne sommes pas nécessairement sauvés par la connaissance que nous pouvons avoir, bibliquement parlant. Et on rencontre des gens qui ont une connaissance biblique très large, qui ne supportent d'ailleurs pas qu'on puisse leur montrer que cette connaissance peut avancer encore un petit peu plus loin. Ils savent tout déjà. On rencontre des gens qui sont satisfaits de l'héritage qu'ils ont reçu. Et j'ai rencontré de ces gens remplis d'une bonne volonté extraordinaire et qui étaient capables de me dire que leurs ancêtres, et me montrer d'ailleurs des documents, me montrer que leurs ancêtres étaient des Huguenots qui avaient résisté héroïquement dans leur temps pour la défense du sola scriptura, des Écritures. Mais ces gens, à ce moment-là, fiers de leur héritage, vivaient comme des gens qui n'ont pas de foi. Leur mode de vie était identique à ceux qui vivaient sans foi ni loi. Mais pourtant, leur héritage leur donnait, semble-t-il, l'assurance que c'était bon, ils étaient sauvés, ils étaient dans le bon lot. Certains portent un nom prestigieux du passé, donc ça suffit. Christianisme génétique. Tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, disent aujourd'hui, mais nous sommes des enfants d'Abraham, et mettez à la place d'Abraham le nom que vous voulez, sont des chrétiens génétiques qui n'ont pas, en fait, développé avec le Christ cette relation personnelle nécessaire au salut personnel en Jésus-Christ. Les chrétiens génétiques, tout comme les chrétiens génériques, vivent dans l'illusion qu'ils sont sauvés, peut-être dans l'orgueil de penser qu'ils le sont, avec la perspective d'une grande déception. Être un chrétien générique n'est pas une solution. Être un chrétien génétique n'est pas une solution. J'aimerais vous proposer ce matin d'être un chrétien génésique, c'est-à-dire un chrétien qui a construit son expérience personnelle sur le modèle de la Genèse et du type de foi que la Genèse nous donne dans Abraham. Le père des croyants, justement. « Nous avons Abraham pour père, disait-il. Soit, qu'a donc fait Abraham? Est-il un modèle ou simplement le gardien d'un héritage ?» Chrétien génésique qui base sa foi sur ce que la Genèse nous donne comme démonstration de ce qu'est la vraie foi, celle d'Abraham, justement. Alors regardez dans la Genèse avec moi au chapitre 12, ce que nous pouvons apprendre sur la foi d'Abraham. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 12, se trouve cette conversation entre Dieu et Abraham. Genèse, chapitre 12, dès le premier verset, il est dit ceci. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de ta maison, de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Abraham reçoit de la part de Dieu cet ordre. « Maintenant, mon ami, laisse tout ce que tu as là et va-t'en de là. » Mais il ne lui dit pas où il va, il lui dit « Je te montrerai où tu devras aller, mais sors d'ici, va-t'en. » Et le texte nous dit qu'Abraham est parti. Ça, ce n'est pas un chrétien générique non plus. Ce n'est pas le chrétien qui a voulu rester moulé dans la tradition de son temps. Ça lui a coûté de partir. On l'a pris pour un fou, pour un illuminé. Il avait sa situation, il y avait l'héritage de son père, il y avait tout ce qu'il fallait pour plaire. Abraham s'en va. Où vas-tu, Abraham ? Je ne sais pas. Vous pensez ce qu'ils ont dû rire, les gens ? Où vas-tu ? Je ne sais pas. Ben, tu n'y arriveras pas si tu ne sais pas où tu vas. Si, je sais, j'y arriverai. Comment ? Dieu m'a dit. Oh, voilà encore un visionnaire. Abraham a vécu là sa première expérience de foi personnelle. Il est parti. Il a accepté d'être différent de ceux du monde dans lequel il vivait, de trancher avec sa religion. Le texte nous parle que son père était lui-même dans une religion extrêmement mélangée, où il y avait des choses de Dieu, des choses qui n'étaient pas de Dieu, une espèce de christianisme synthétique. Abraham dit non. Il sort de là, il s'en va. Il avait un christianisme là, si on peut parler d'un christianisme, haut en couleur, marqué, différent, distinct. Un christianisme audacieux. Et en parlant de christianisme audacieux, nous retrouvons Abraham au mont Morija. Là, ce n'était pas non plus un christianisme générique. Quand Dieu lui a dit « Va, prends ton fils, celui que tu aimes et qui s'appelle Isaac, et va le sacrifier pour moi à tel endroit ». Ça, ce n'est pas du christianisme générique non plus. C'est un christianisme audacieux, courageux. C'est une foi profonde, une confiance dans celui qui parle et qui demande des choses aussi incroyables. La vie d'Abraham était toute organisée autour de la parole de Dieu. Dieu lui disait ceci et il le faisait. Et nous savons, pour avoir lu déjà l'histoire d'Abraham plusieurs fois, que il entendait la voix de Dieu, il aimait Dieu, il voulait obéir à Dieu, mais c'était difficile pour lui comme ça l'est aussi pour nous. Et il a fait les faux pas. Mais Abraham est parti. Dieu lui a dit « Sors d'ici ». Et il est sorti. Ce n'est pas exactement le christianisme standard auquel le monde d'aujourd'hui nous invite. Ce n'est pas un christianisme où l'on est invité à se fondre dans la masse. Pour qu'il n'y ait pas des gens qui se singularisent par des doctrines bizarres et des pratiques différentes. Ça dérange. Abraham a dérangé beaucoup de monde. Et Dieu l'a dérangé aussi parce qu'il lui a demandé des choses incompréhensibles. Incompréhensibles sur le moment. Mais le reste des Écritures nous ont montré que Dieu, dans sa sagesse, conduisait Abraham comme il voudrait nous conduire, nous. Mais ce que Dieu a demandé à Abraham, en fait, il l'a demandé à tous ses serviteurs fidèles au travers des temps. Ce que Dieu a demandé à Abraham, va-t'en d'ici, sors de ce pays, il l'a demandé à tous les croyants. Nous retrouvons le même appel dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 48. Ésaïe, chapitre 48. Ésaïe, chapitre 48, j'aimerais lire avec vous à partir du verset 17. Ésaïe, chapitre 48, à partir du verset 17. Il est écrit ceci. « Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Ta postérité serait comme le sable et les fruits de tes entrailles comme les grains de sable. Ton nom ne serait point effacé, anéanti devant moi. Sortez de Babylone, fuyez du milieu des Chaldéens. Avec une voix d'allégresse, annoncez-le, publiez-le, faites-le savoir jusqu'aux extrémités de la terre. Dites, l'Éternel a racheté son serviteur, Jacob. » Vous retrouvez dans ce texte la même promesse que celle qui était faite à Abraham. Ta postérité sera innombrable. Tu auras un nom. La même promesse est faite. Le même appel est adressé. Voilà, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Et cet appel se termine en disant, sortez de Babylone, sortez du milieu des Chaldéens, et dites-moi quand vous y réfléchissez, d'où donc Abraham est-il parti, si ce n'est de la Babylonie, justement, pour aller dans la terre promise. C'est précisément de cette Babylonie que Dieu a demandé à Abraham de sortir. Le même appel retentit des siècles plus tard par la voix du prophète Ésaïe. Son peuple est là, installé maintenant dans la terre promise depuis des siècles, et Dieu dit encore, sortez de Babylone. Sortez de Babylone. Il ne s'agit peut-être plus ici de sortir physiquement d'un lieu précis, mais de se dégager de cette mentalité babylonienne qui est la mentalité de la confusion depuis la tour de Babel, de la confusion entre le bien et le mal. Combien de fois Dieu a repris son peuple parce que le peuple disait ce qui est bien est mal et ce qui est mal est bien. Le prophète Malachi le souligne encore souvent. Sortez de Babylone, c'est sortir de cette confusion générique, de cette confusion génétique, de cette confusion religieuse totale. Sortez de Babylone, c'est finalement l'antigénérique, l'antigénétique. C'est refuser une foi et une religion qui ne se base que sur une tradition, que sur une habitude. C'est refuser une religion qui se base sur une église politisée, étatisée, installée. C'est une foi qui ne veut pas être une foi clonée, photocopiée, reproduite à l'infini chez les uns et chez les autres. Une foi industrielle, une foi commerciale. Une fois refaite et réchauffée. Sortez de Babylone. Abandonnez ce qui va faire de tous ces gens des gens qui ne savent plus où est le bien, où est le mal, quel est le plan du salut. Inscrivez-vous dans la différence. Ayez une couleur à votre christianisme et le courage de la garder. C'est ce que Dieu proposait à son peuple du temps d'Ésaïe. Mais je suis intéressé de voir que c'est exactement ce que Dieu propose à son peuple à la fin des temps. Nous le retrouvons dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 18. Apocalypse, chapitre 18. Et vous connaissez ce passage du livre de l'Apocalypse, chapitre 18, où il est question justement de Babylone. Il nous est dit au verset 2, il cria d'une voix forte, il est question de l'ange, disant « elle est tombée, Babylone la grande !» Et plus loin au verset 4, « Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point part à ses fléaux. » Ce que Dieu a dit à Abraham, « Sors de là !» Il le répète au peuple d'Israël, même une fois installé en terre promise, « Sortez de Babylone !» Et à son peuple des derniers temps, nous sommes là dans le texte de l'Apocalypse, Dieu dit la même chose. « Sortez de Babylone !» Oh, je comprends qu'il ne s'agit pas là d'un voyage à faire en voiture, en avion. Il s'agit d'un voyage intérieur où l'on rejette ce christianisme standard, cloné, qui met tout le monde égal et pareil. C'est un refus de ce christianisme qui va nous rendre tellement semblables que l'on sera manipulable et utilisable à volonté comme une grande masse. Le christianisme des masses n'est pas le christianisme de la parole de Dieu. Sortez de Babylone, sortez de la Babylonie spirituelle qui est dans la confusion par rapport à la moralité. La Babylonie spirituelle qui est cette vie spirituelle orgueilleuse et prétentieuse, de tradition, d'habitude. Sortez de cette Babylonie qui n'a pas fait la différence entre le salut par la foi et le salut par les œuvres. C'est un voyage intérieur qu'il est nécessaire de faire pour que notre christianisme ne soit ni génétique, ni générique, mais qui soit basé sur l'exemple que nous avons dans la Genèse, l'exemple d'Abraham, à qui Dieu dit « Sors de là !» Et il s'en va. Et il abandonne tout ce qui lui est cher. Parce qu'il veut un christianisme qui soit d'abord et avant tout une relation personnelle avec son Dieu. Un christianisme coloré et vivant. Ah, il ne sera peut-être pas comme celui des voisins, comme celui de la masse des gens d'aujourd'hui, mais il sera au moins biblique. C'est le christianisme de ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Ah, je sais, c'est un christianisme qui fera peut-être peur à l'environnement, qui donnera l'impression d'être un christianisme des temps passés, un christianisme à éviter, un christianisme d'engagement, un christianisme qui va peut-être déranger, c'est sûr. C'est le christianisme auquel nous sommes invités à la fin des temps, le christianisme non pas de la masse, mais du reste. Et l'Église qui nous est présentée dans la parole de Dieu comme étant l'Église fidèle des derniers temps, c'est l'Église du reste, le petit reste. Or, nous voudrions que le reste soit grand, nous voudrions qu'il soit géant ce reste. Mais il est une réalité biblique qui nous invite à regarder cette réalité en face, à savoir que seuls ceux qui feront le choix d'un christianisme authentique et personnel feront partie de ce reste. Ni génétique, ni générique, mais basé sur l'expérience de foi dont Abraham nous donne le type même dans la Genèse. Un christianisme, une foi, qui répond à cet appel que l'on trouve dans l'Apocalypse, lorsque Jésus lui-même, s'adressant à l'Église, lui dit « Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. » Amen.
Quel beau message encourageant, quelle belle exhortation. Nous allons prendre nos classiques maintenant, numéro 489. 489.